Chapitre 34. Le voyage de Rudemont à Annebault n'est pas bien long. Cependant, en ajoutant à l'aller et au retour le temps nécessaire à son entretien avec l'abbé Guillemite, Clémence se voyait obligée de laisser le marquis seul pendant 2 ou 3 heures, et cela la tourmentait. Ce n'était que par une surveillance incessante qu'elle pouvait avoir un peu de tranquillité, et encore combien fragile. Ses yeux, ses oreilles, son esprit devaient être toujours tendus sur le même objet. Partout des ennemis, et un seul allié en qui elle put se fier, parce qu'elle avait su le convaincre que leurs intérêts étaient communs. Mais cette conviction, combien durerait-elle? Que fallait-il pour qu'elle disparût? Ah, sa tâche était lourde et rude. Se tenir jour et nuit sur la défensive, surveiller Louis et les amis inconnus dont il pouvait se servir, maintenir M. de Carquebus dans la persuasion qu'elle travaillait pour lui, faire que les longues heures de la journée fussent courtes pour le marquis, l'amuser quand même, inventer du nouveau, aller au-devant de ses désirs, satisfaire le sourire aux lèvres, tous les caprices qu'il voulait bien manifester, lui donner de la gaieté, de l'esprit, avec cela, poursuivre continuellement le but qu'elle voulait atteindre, ne point faire un pas, n'avoir point une idée qui n'y tendisse toujours, ne se montrer jamais triste, jamais lasse, jamais inquiète, quel labeur! Obligée, malgré tout, d'aller à Annebault, ce fut à M. de Carquebus qu'elle résolut de confier le soin de veiller sur le marquis. Un tête-à-tête de 4 heures avec cette grande momie, dit M. de Carquebus, voilà qui est récréatif. Vous savez quoi lui dire, vous l'amusez, je vous admire. Mais moi, je n'ai pas de ces finesses de femme, et puis franchement, ça m'ennuie. Il n'a jamais été drôle, ce pauvre Arthur. Maintenant, il est assommant. Elle haussa les épaules et un sourire de pitié plissa ses lèvres. « Je peux, si vous le voulez, vous donner un sujet de conversation. »« Croyez-vous que je vais me mettre à apprendre une leçon pour faire plaisir à Arthur ?»« C'est à vous, dit-elle sans se fâcher de ses façons aimables, que je veux faire plaisir. Au moins, je pense que le sujet que je veux vous indiquer ne peut que vous être agréable. » « Alors, voyons-le. Pourquoi ne profiteriez-vous pas de ce tête-à-tête pour parler au marquis de son testament ?»« Mais je comptais sur vous pour cela. » »« Et vous aviez raison, mais vous devez comprendre que maintenant, ce sujet n'est pas abordable pour moi. »« Parce que ?»« Parce que j'aurai l'air de me venger de votre neveu, et le marquis, vous le savez aussi bien que moi, a horreur de ses sentiments bas. » S'il supposait mes conseils intéressés, il ne les écouterait pas. Il me semble que les miens auront ce défaut à ses yeux. Oh, les vôtres, c'est bien différent. Ils partent d'un droit positif et dès lors, ils sont naturels et légitimes. Au reste, je ne vois pas la nécessité pour vous d'engager le marquis à faire son testament en votre faveur. Cela est parfaitement inutile. Suffit que vous lui donniez l'idée de faire ce testament. Les circonstances seules l'obligent à vous choisir pour héritier. En effet, est-ce à Louis qu'il va laisser sa fortune? Cela n'est pas admissible. Il y a quelques mois, oui, cela aurait bien pu se passer ainsi. Mais maintenant, non. Vous savez bien qu'il n'est pas homme à se donner un démenti. Ira-t-il choisir Denise? Pas davantage, et il en sera empêché par les mêmes raisons. Sans la lettre de Balbine et sans Sainte Rutilie, il est certain que la fille d'Emma Lajolet eût été propriétaire de Rudemont. Mais nous n'en sommes plus là grâce à une certaine personne qui, par intérêt pour un gentilhomme qu'elle estime beaucoup, a su fermer les portes de Rudemont devant M. Louis Mérot et celles du couvent de Sainte-Rutilie sur Denise Lajolet. Connaissez-vous cette personne et ce gentilhomme? Vous êtes un ange, s'écria M. de Carquebus. Un petit ange bien malin. Je ne suis pas un ange et je n'ai guère de malice. Je ne suis qu'une femme dévouée à ce que j'estime. Si vous reconnaissez ce dévouement et si vous m'en savez quelque gré, je suis payée de ma peine. Vous serez payée mieux que cela. Je vous ai promis que vous seriez ma femme et je ne m'en dédie pas. »
Je ne demande qu'à vous croire, mais pourquoi ne feriez-vous pas comme tant d'autres? Vous allez être riche, très riche. Vous n'êtes pas d'âge à ne pas vous marier. Pourquoi ne vous laisseriez-vous pas toucher par de beaux yeux qui vous témoigneraient de l'intérêt et se prendraient de tendresse pour vous? Alors la petite déesse serait bien vite oubliée.
Jamais!
Monsieur de Carquebus lança ce mot avec une assurance superbe. Jamais homme n'avait été plus convaincu. En même temps, il était plein de fierté. Clémence ne l'avait pas gâté par des compliments. Bien souvent, au contraire, elle l'avait toujours raillé, se moquant de sa barbe rousse, de son nez épaté, de ses manières brutales et surtout de ses 60 années. C'était en effet un procédé chez elle ordinaire de ne pas flatter ses adorateurs. Oui, elle subissait leur influence, mais pas au point de se laisser aveugler. 20 fois, 100 fois, elle avait avoué à M. de Carquebus qu'elle ressentait pour lui des sentiments d'estime, selon son expression. Mais en même temps, elle avait pris soin de lui faire savoir que cette estime ne l'empêchait pas de voir tous les défauts qu'il y avait en lui. Par là, l'arrêtant dans ses élans d'orgueil, elle ne lui avait pas permis de s'abandonner à une confiance et à une sécurité qui eussent pu devenir gênantes pour elle. Maintenu dans la défiance et dans la crainte, il avait toujours gardé une sorte de respect dont il se fût sans cela rapidement affranchi.
« Il m'est trop doux de vous croire, dit-elle, pour ne pas m'abandonner à votre parole. Au reste, rien ne prouve mieux la confiance que j'ai en vous que le conseil que je vous donne en ce moment. »
« Comment cela ? » ?»«
Comme on ne connaît pas l'engagement qui nous lie, il est assez naturel que certains esprits malveillants me soupçonnent de vouloir me faire donner la fortune du marquis. Si ces soupçons, prenant la forme d'une accusation précise, viennent à vos oreilles, vous saurez comment les accueillir. Pour cela, vous n'aurez qu'à vous rappeler que je n'ai pas voulu soulever avec le marquis la question de testament et qu'après avoir éloigné du château tous ceux qui pouvaient vous combattre, je vous ai laissé toute liberté. » Ayant cette preuve de ma loyauté, vous pourrez traiter comme il le mérite tous ceux qui viendront vous faire ses confidences. Profitez donc de ce tête-à-tête que je vous ménage pour aborder franchement cette question.
Arthur n'aime pas qu'on parle de la mort.
C'est vrai, mais il me semble que vous n'êtes pas homme à vous arrêter devant une considération de ce genre. Faites cette opération courageusement, comme le chirurgien qui ne s'arrête pas devant les cris de douleur du patient qu'il sauve. Arrangez-vous pour l'obliger à penser à son testament, à en admettre l'idée, et cela obtenu, si vous ne pouvez pas aller plus loin, arrêtez-vous. Je ferai le reste. »
Une heure après, le marquis montait en voiture avec M. de Carquebus, et Clémence, trop souffrante pour sortir, venait avec effort jusqu'à la dernière marche du perron pour leur souhaiter une bonne promenade. Aussitôt que la voiture disparut au premier tournant de l'allée du parc, elle rentra dans sa chambre et, ayant revêtu un costume de cheval, elle partit toute seule pour Annebault.